vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie, là, sur nos petits. Avec nos petites idées, dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça ne marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous vous diffusons une émission historico-fictionnesque. L'équipe brillante de Radio Show, produite par Arte Radio, nous propulse dans un lion affamé par une grève dure des livreurs d'Uber et autres Deliveroo. Mêlant histoire des luttes ouvrières d'hier et d'aujourd'hui, nous plongeons dans un méli-mélo en public plein d'humour. Plus de sushis, plus de pizza, plus de burgers. À Lyon, les adeptes de la livraison de street food à domicile sont en PLS depuis le début de la révolte des livreurs d'Uber et autres Deliveroo. Alors que la famine guette les quartiers gentrifiés du centre de Lyon, où on ne sait même plus se faire cuire des pâtes, les ouvriers et ouvrières de la livraison prennent la mairie et écrivent une page de l'histoire sociale du pays à travers une lutte qui n'est pas sans rappeler les insurrections des Canuts, les ouvriers de la soie lyonnaise du 19e siècle. L'équipe de Radio Show, en léger direct de Lyon, se fait l'écho des révoltes lyonnaises passées et futures. Entre documentaires historiques sur les soulèvements des Canuts et breaking news sensationnel sur la révolte imaginaire des petites mains de l'Uber Economy, ce podcast historico-loufoque tente une convergence des luttes dans le temps. Ha 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 ha!
Vous écoutez Arte Radio.
Bonsoir Lyon.
Right now, you're listening to Arte Radio. Le radio show en léger direct.
Bienvenue dans le radio show, nous sommes en léger direct du Périscope à Lyon. Ça va les gones et les fenotes? On est carrément calé d'être ici parce que ça fait 3 semaines qu'il n'y a plus une seule gâche, il n'y a qu'à fil de monde, alors on se la raque.
Livo, on comprend rien à ce que tu dis là en fait.
Oh Bichette, elle comprend rien. Mais Pelote, t'es au courant qu'on est à Lyon ou bien?
Ah ouais, donc quand on enregistre à Lyon, on fait une émission en langue régionale, c'est ça?
Chablais parisienne, elles vont se mettre à chougner quoi.
Non mais imagine si à Paris on faisait des émissions que pour les Parisiens.
Non mais là vous avez vraiment pas de latch.
Alors pardon.
Oui, qu'est-ce qu'il y a Gribiche?
Mais moi je viens de Grenoble.
Oh non, on avait dit pas les Quechua.
Alors en vrai, je m'en fous un petit peu de vos trucs de compète de grosse ville.
On est en léger direct de Lyon et on est fiers parce que Lyon, c'est la ville des frères Lumière qui ont inventé le cinéma.
Ouais, bah nous, on a Méliès et au moins lui, il n'était pas du côté des nazis.
À Lyon, on a eu les Vélov avant les Vélib.
Ouais, nous, on a eu le métro 70 ans avant vous.
Et en plus, nous, il fonctionne.
À Lyon, on a eu les Berges du Rhône avant Paris-Plage.
On a eu les scouts de Fourvière avant Bétaram.
Les Maristes avant Stanislas.
Barbarin avant Bayrou.
On a eu Raymond Barre.
L'OL avant le PSG.
Radio Canu avant Carbone 14.
Les bouchons lyonnais avant les bouchons sur le périph' parisien.
Et puis surtout à Lyon, on a eu les Canus avant la Commune.
Les Canus, c'est pas des appartes, ça?
Les Canus, c'est les ouvriers de la soie qui ont fait la révolution.
Attends, mais personne connaît les Canus, là.
Mais si, il y a même une chanson. Vous allez voir, ici, tout le monde la connaît, hein. Nous en tissons pour vous, gens de l'église, et nous, pauvres canus, n'avons pas de chemise. C'est nous les canus, nous avons tout nu.
C'est quoi cette chanson? C'est pour le naturisme?
Non, c'est une chanson d'Aristide Bruant sur la lutte des canus au 19e siècle.
Par contre, Aristide Bruant, il était parisien, donc bon.
Tisserons le linceul du vieux monde et on entend déjà la révolte qui gronde. C'est nous les canus, nous n'irons plus nus. C'est nous les canus, nous n'irons plus nus.
Cette chanson des canus qui seront tout nus et bientôt ils prendront le pouvoir. C'est une chanson militante qu'on a chantée partout dans les meetings. C'est l'image mythique des canus.
Michel Zancarini-Fournel, historienne.
Et c'est pour ça qu'il faut revenir à l'organisation de la fabrique pour comprendre comment la fabrique lyonnaise est organisée et qui sont les canus, en fait.
L'industrie de la soie à Lyon remonte au XVIe siècle, mais a surtout pris son essor au XVIIIe.
En 1830, Lyon est une ville qui ressemble à une usine à ciel ouvert. On fabrique des pièces de soie extrêmement ornementées.
Valérie Zipper, autrice et cofondatrice du festival Novembre des Canus.
On fait du travail pour le luxe, pour l'église, pour les grandes cours d'Europe. C'est pas du prêt-à-porter, hein.
Depuis la Révolution, les canus, dispersés jusque-là dans la ville, ont installé leur métier sur le plateau ou les pentes de la Croix-Rousse.
Ici, à la Croix-Rousse, il y a un métier à tisser derrière chaque fenêtre. Qui c'est qui est derrière un métier à tisser? Il y a le maître tisseur, le canu, le chef d'atelier. Lui, il a fait un long apprentissage, entre 3, 5 ou 7 ans, pour pouvoir tisser du façonné. Donc c'est un ouvrier, mais c'est un ouvrier extrêmement lettré. Et quand c'est une petite entreprise qui marche bien, eh bien, il emploie des gens. Ceux-là, c'est les compagnons. Et parfois, il y a encore des apprentis. Dans le mot canu, il y a le chef d'atelier et les compagnons. Tous les tisseurs en soie sont des canus. Il y a à peu près, en 1830, 8 000 chefs d'atelier, 30 000 compagnons. Donc, ça veut dire que tout ce petit monde-là est réuni dans un appartement dont le chef d'atelier est locataire. Et il travaille sur des métiers à tisser dont il est propriétaire. Il est propriétaire de son moyen de production. C'est ce qui fait la grande similitude avec des fonctionnements d'aujourd'hui qui sont les Uber, voitures ou vélos, tout ce qu'on veut, puisque les gens sont obligés de s'acheter leur outil de travail.
Pour être livré, toi-même, il faut que tu achètes tout. Les plateformes ne te donnent rien, rien du tout. Tu as besoin d'un vélo, un portable, batterie de recharge, un sac.
D'abord, il faut avoir une application sur ton téléphone.
Et ouvrir un compte, si c'est eBay ou bien si c'est Stuart ou soit Deliveroo. Puis après, les vérifications, tu peux passer en ligne, tu commences à recevoir les commandes.
Quand tu viens matin, tu te connectes. Une fois que tu es connecté, on arrive à te localiser maintenant partout où il y a les courses.
Des fois, ça arrive que le compte n'a pas à toi. C'est qu'on n'a pas le papier, donc on ne peut pas le faire. Exemple, peut-être que moi, je n'ai pas un document européen. J'ai un pote qui a un document européen. C'est lui qui peut faire l'ouverture de compte pour moi. Et comme ça, moi, je travaille. Et chaque semaine, moi, je lui donne 100 euros ou 150 euros.
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est beaucoup de kilomètres par jour. On peut dire 60 kilomètres par jour comme ça.
T'as mal partout, quoi. Mais c'est pas facile, t'es sur vélo de 8h jusqu'à minuit.
Toute la journée, on est entre les voitures. Vraiment, c'est difficile.
Donc, il faut que tu sois vigilant. Dès que tu reçois le notif, il faut cliquer dessus pour pouvoir être rapide, quoi.
J'appelle le patron de Deliveroo Uber. Va falloir qu'il s'explique, là.
Ah ouais, putain, t'as chopé son 06, bien ouais.
Bah ouais.
Deliveroo Uber, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Arte Radio.
Bonjour, ravi de vous parler. En plus, j'adore Arte Radio. En quoi puis-je vous aider ?
C'est chelou.
C'est une IA.
Mais non. En fait, monsieur, on aurait voulu vous poser des questions parce qu'on fait une émission sur les conditions de travail de vos livreurs, là.
Les auto-entrepreneurs qui collaborent avec nous sont toujours à l'heure. Effectivement.
Non, mais c'est sûr, c'est une IA.
Mais non. Oui, mais justement, il y a un débat sur le fait que si vous les employez, ces auto-entrepreneurs, c'est surtout un moyen de les sous-payer et de gruger les cotisations sociales.
Cotisations sociales. Je ne connais pas cette localisation. Veuillez de nouveau prononcer votre ville de résidence.
Qu'est-ce qu'il raconte, ça ?
C'est une IA, je te dis.
Pas sûr.
Ouais, arrête de voir des IA partout, il y a aussi des vrais humains.
Eh oh, je vous entends.
Ah.
C'est pas la peine de faire comme si je n'existais pas.
Voilà. Oui, pardon, monsieur. Du coup, on voulait parler du droit du travail.
Désolé, le détroit de Gibraltar n'est pas couvert par nos services. Merci de retenter plus tard.
Non, mais tu vois bien qui dit nimp.
Ah non, mais là, c'est sûr, c'est une IA.
Mais non, je vous jure, le gars qui m'a filé le 06, on peut lui faire confiance, il est sérieux.
Non, mais il t'a arnaque. De toute façon, le patron de Deliveroo Uber, il va pas assumer à la radio qu'il a rétabli l'esclavage, en fait.
Nous ne faisons pas d'esclavage. Tous nos coursiers sont indépendants et libres de travailler quand ils le veulent. Car comme le disaient les nazis, le travail rend libre.
Non mais tu vois bien que c'est une IA, ils citent les nazis.
Ah merde, putain.
On nous dit auto-entrepreneur, mais c'est pas auto-entrepreneur. Parce que c'est un travail obligatoire. Tu es obligé d'accepter le commande. C'est comme tu es un patron. Tu refuses, il va te punir.
Les canuts ont une particularité, c'est qu'ils ne sont pas indépendants. Les canuts dépendent de ceux qui leur donnent à la fois la matière première et qui vendent leurs produits.
Eux, ce sont les patrons des grandes maisons de soirée. Ils s'appellent fabricants, négociants ou soyeux. Tout ça, c'est la même corporation.
C'est la bourgeoisie entrepreneuriale, capitaliste, on pourrait dire, qui ont ce qu'on appelle des magasins, qui sont des grandes maisons dans lesquelles les chefs d'atelier allaient chercher donc leurs matières premières et apportaient les produits une fois tissés.
Le chef d'atelier, on lui passe commande, on lui donne la soie qu'il faut pour réaliser la pièce et c'est seulement une fois la pièce réalisée qu'on le paye. Le canu, le chef d'atelier, n'est payé qu'une fois la pièce réalisée. Ça le place dans une situation qui n'est pas toujours facile.
Il ne faut pas refuser aussi les commandes. Parce que si tu refuses commande, l'application peut te rester au moins 2 heures, 3 heures du temps sans qu'on te donne des courses. la plateforme des sites. Des fois, ton compte est allumé, mais tes amis, ils ont fait 3-4 courses et toi, tu as fait une seule course.
Si un chef d'atelier est blacklisté, peut-être pour des raisons politiques ou tout ça, et que les négociants se donnent le mot, s'il ne travaille plus, il est foutu. Il n'a plus de commandes, il n'a plus de commandes, quoi.
Tu as droit à un nombre de points. Quand tu crées le compte comme ça, tu es à 100%. Donc, tu dois t'arranger au maximum pour ne pas descendre au-dessus du 80. Sinon, une fois que tu descends au-dessus du 80, on suspend le compte.
Il n'y a pas un seul prix. Ça dépend. Il y a des fois, il y a des courses qui sont à 1 euro et quel, 3 euros et quel.
Mais comment 2,80 euros, tu vas monter 6e étage.
3 euros à 3 km.
5 euros, 5 km.
Il n'y a pas de tarif minimum. Il ne calcule pas le temps que tu paies pour attendre, pour rouler, vélo pour aller chercher la commande. Il ne calcule même pas tout ça. Il te dit seulement le prix, c'est ça.
Il y a des jours, tu peux gagner 40 euros. Il y a des jours, tu vas gagner juste 30 euros. On le fait parce que c'est comme en un mot, on n'a pas le choix. Avec ça, on peut subvenir à nos besoins. Pour ne pas être dehors dans la foire, tu vois.
Malgré tout, on est dans une condition ouvrière. Ce sont des gens qui travaillent tellement en termes d'heures de travail. Et dans des conditions, c'est la pression qui est mise aussi par les négociants, qui les oppresse. Parce qu'on leur dit, je vous donne cette commande, il faut que la pièce soit rendue à telle heure, tel jour. On ne tient pas compte des ennuis potentiels, d'une fièvre qui peut arriver, d'un fil qui casse, tout ça. Et si elle n'est pas rendue, on peut lui dire, bah, tant pis pour vous, hein, trop tard. Donc on vit quand même dans des appartements qui ne sont pas grands. Les fameux appartements CANU qui ont fait la richesse de la Croix-Rousse telle qu'elle est aujourd'hui, grâce à la hauteur de plafond, etc. Si on a un appartement avec trois fenêtres, il y a trois métiers à tisser. On n'ouvre pas les fenêtres, parce que la soie est trop fragile à l'humidité, au changement de température. Et en plus, sur les fenêtres, il y a du papier huilé collé pour atténuer la lumière, pour pas altérer les couleurs. Tout le monde dort sur la suspente si le bas est occupé par les métiers à tisser, plus l'endroit où on mange.
La suspente, c'est comme ça qu'on appelle la mezzanine.
Voilà, ce qu'ils appellent la suspente, tout le monde dort par là. Avec le chef d'atelier et sa femme qui essaient d'avoir un petit coin, mais il y a les gosses, les apprentis, les compagnons. Donc c'est sûr que question intimité, ça ne devait pas être grand luxe. Mais on veut vivre dignement de notre travail.
Vous êtes toujours sur Arte Radio, veuillez nous excuser pour l'interruption de ce documentaire historique, mais priorité à l'actualité actuelle de maintenant.
Arte Radio Breaking News.
On vient d'apprendre qu'un mouvement d'ampleur vient d'éclater à Lyon chez les livreurs à vélo, à tel point qu'il ne serait plus possible de se faire apporter des repas à domicile par les services des plateformes Uber et Deliveroo, ce qui pose de sérieux problèmes dans le centre gentrifié de Lyon.
Selon les informations qui nous remontent du terrain, certains livreurs ont d'abord continué à aller chercher les commandes dans les restaurants pour les manger eux-mêmes ou pour alimenter les camps de migrants. Puis ils se sont progressivement déconnectés de leur appli pour arriver à un blackout total sur les plateformes.
Plus de burgers, plus de sushis, plus de pizza, plus de pita, plus de tandoori, plus de tablier de sapeur, plus d'andouillettes, plus de salade lyonnaise, plus de tête de veau sauce gribiche.
Arrête, ça me donne faim là.
Plus de rosettes, plus de quenelle, plus de pokéball, plus de focaccia, plus de falafel, plus de poutine, plus de frites maison, plus de gros tacos bien gras.
Arrête.
Claude Casdal, notre envoyé spécial à Lyon, est allé rencontrer des personnes victimes de ce qui semble être le plus gros mouvement de grève de l'histoire sociale de la street food.
Niché au 6e étage d'un immeuble à haut plafond des pentes de la Croix-Rousse, Reynald fait partie des personnes habituées des livraisons de plats à domicile.
Ça a commencé lundi midi, j'avais commandé un burger sauce samouraï comme d'hab et l'appli m'a annoncé un délai de livraison de 2h30. Je me suis dit merde, qu'est-ce que je vais faire en attendant ?
Harassé par la faim, ce jeune lobbyiste indépendant en télétravail a dû continuer sa journée de labeur en espérant que les choses se débloquent.
Le soir, je me suis dit, je vais me faire des sushis. Et l'appli m'a dit, aucun livreur n'est disponible dans l'heure dans votre localisation. Du coup, je décide de bouger jusqu'au McDo, je commande un Uber pour y aller. Et là, pareil, aucun chauffeur disponible dans votre ville. Là, je me suis dit, ça y est, c'est la guerre.
Reynald n'a pas mangé depuis 4 jours maintenant. Il ne sait pas comment faire autrement. D'ailleurs, chez lui, Pas de cuisine, juste un micro-ondes.
J'ai essayé de mettre un paquet de pâtes direct dedans, mais ça n'a pas...
Ils sont nombreux, comme Reynald, à tirer la langue.
Franchement, moi, j'ai rien contre les livreurs. Hein. D'ailleurs, j'ai adoré l'histoire de Suleyman, mais là, prendre les gens en otage comme ça, c'est pas cool.
Sur une fenêtre d'un de ces immeubles, autrefois habité par les ouvriers de la soie, une pancarte, pitié, aidez-nous, prête à payer 100 euros pour un burger.
Claude Casdal.
La préfecture du Rhône confirme un problème de ravitaillement dans le centre-ville de Lyon, alors que l'ONG Action contre la faim préfère, elle, évoquer un risque imminent de famine dans la plupart des arrondissements lyonnais et pointe une inaction des pouvoirs publics.
L'Élysée s'est dit attentif à la situation, le patronat craint une propagation de ce mouvement à tous les secteurs du lumpen auto-entrepreneuriat, et puis on apprend à l'instant qu'une concession Tesla a été brûlée à Toulouse en soutien au mouvement des livreurs.
Ce qui déclenche, c'est d'abord le fait qu'un certain nombre de travailleurs et autres ont fait la révolution 2 ans plus tôt. La révolution de 1830, qui a fait chuter la monarchie absolue de la dynastie des Bourbons. On pense qu'on va avoir une monarchie plus constitutionnelle, avec un roi qui pourrait se révéler être un roi citoyen.
Ludovic Frobert, historien.
Dans les faits, on va pas avoir du tout ça. On va avoir surtout une révolution... non pas des libertés, mais une révolution libérale. Donc il y a véritablement à ce moment-là des hérissements de la part des chefs d'atelier en disant qui sont ces négociants qui maintenant vont nous rejouer le jeu du maître et de l'esclave ou du jeu du noble et finalement du serf.
Moi, avec les clients, bon, il y a eu des propos des fois mal placés vers moi. Ils t'insultent des fois... T'arrives en retard, il te parle comme tu es son enfant, quoi. Il te parle même pas comme son enfant, il te parle comme tu n'es rien, en fait. Voilà, tu n'es rien, en fait. Donc, vu que lui t'a payé 3 euros, donc il s'est dit qu'il est ton supérieur, quoi. Les restaurants sont bizarres. Il y a certains qui sont racistes. Parce que des fois, même moi-même, ils ont eu à me dire ça, ils m'ont dit. Ceux qui mangent dans les restaurants, ils n'aiment pas voir les noirs. Tu n'as pas le droit de rentrer. Et toi, il ne faut pas répondre. C'est vrai, ça te fait mal, mais garde ça dans ton cœur. Si tu réponds, tu risques de gâter ton travail.
Ils payent mal. C'est esclavage.
Si on pouvait calculer même par kilométrage, c'était bon.
Ils n'ont pas à revoir les prix.
Et il y a une revendication qui se développe pour demander à ce que le tarif des tissus ait en quelque sorte un minimum, pour ne pas travailler à perte. Le préfet Bouvier du Mollard, à l'époque, intervient dans la négociation pour pousser à ce qu'il y ait un accord qui se fasse sur un tableau général des tarifs.
Le 25 octobre 1831, la ville de Lyon est en fait un nouveau tarif vient d'être signé entre patrons et l'ensemble de la classe ouvrière canuse sur un prix minimum. Quelques négociants montent à Paris, vont voir le ministre du Commerce et ils disent, dis donc, nous, ces tarifs lyonnais, là, en fait, on ne va plus les respecter.
En disant, ça, c'est contraire à la charte de 1830, qui est la charte du libéralisme, en quelque sorte. Or là, regardez, il n'y a pas eu libéralisme. D'abord parce que, c'est un accord collectif. Or, les accords ne peuvent être que individuels. Et deux, c'est un accord qui a été visé par une autorité qui était une autorité d'État.
Donc, en fait, on appliquera les tarifs en fonction de l'offre et de la demande au coup par coup.
Et le gouvernement central donne raison à cette dénonciation. Et donc, les tarifs sont brisés.
À partir de là, les canuts se mettent en grève.
Et c'est ça qui met le feu aux poudres en 1831.
On ne dit pas grève à l'époque, ils arrêtent de tisser. C'est la Meurthe, ils disent. Cette ville qui est très bruyante et qui est rythmée par les battants de métier. Silence.
Arte Radio Breaking News, on interrompt de nouveau votre programme puisqu'on a du nouveau sur la révolte des livreurs à Lyon où le mouvement s'est durci alors qu'on a frôlé une sortie de crise. Claude Casdal est sur place à Lyon.
Oui, des négociations menées localement entre le SDRL, le syndicat des livreurs en roue libre, et le préfet avaient été fructueuses. S'appuyant sur des jurisprudences du tribunal des prud'hommes, les deux parties s'étaient mises d'accord sur un tarif minimum de la livraison.
Mais alors qu'est-ce qui s'est passé, Claude ?
Eh bien, pendant que l'accord était signé à Lyon, un lanceur d'alerte nous révélait qu'une réunion secrète se tenait à Paris entre les dirigeants de Deliveroo Uber et d'Emmanuel Macron.
Mais non.
Et si. Et à l'issue de cette rencontre, le monarque a immédiatement signé un décret inscrivant dans la Constitution la liberté de se faire livrer par des esclaves. Il aurait ensuite déclaré « On est quand même en France, merde ».
Ah oui, c'est pas bon signe.
En tout cas, je peux vous garantir qu'ici, on entend déjà la révolte qui gronde.
Les canuts dévalent de la Croix-Rousse.
De Vèze, de la Guillotière, de la Croix-Rousse, on descend en masse.
Avec un drapeau noir.
Vers l'hôtel de ville.
À l'inscription « Vivre en travaillant ou mourir en combattant ». La garde nationale tire. Il y a des morts.
Et donc ça s'organise.
S'armer d'objets divers et de quelques fusils.
Ils font fondre des fourchettes, monter de la grande côte.
Il y a des barricades.
Ça tire, ça castagne, ça devait pas être détendre. Hein.
Les pavés sont hissés sur les toits, jetés sur les troupes.
Il y a une sorte de retraite piteuse des troupes du roi. Les troupes quittent la ville. Donc c'est une capitulation. Déjà pour tous ces régimes-là, quand ils perdaient sur le champ de bataille face à une armée ennemie, c'était pas reluisant. Mais là, c'est une humiliation absolument totale.
C'est une masse énorme qui prend la ville en étau et hop, on rentre à l'hôtel de ville.
La ville, pendant quelques jours, est aux mains des insurgés. Imagine qu'il y ait un mouvement social à Lyon et que la deuxième ville du royaume... du royaume macroniste, soit en quelque sorte livré à la foule. C'est ce qui se passe à ce moment-là.
Arte Radio Breaking News.
Arte Radio Breaking News, on apprend à l'instant que Lyon vient de tomber aux mains des insurgés livreurs.
Tout à fait, c'est incroyable, c'est inédit. La deuxième ville du pays est maintenant tenue par les précaires de Deliveroo Uber. Ils ont été rejoints par d'autres livreurs Amazon, par des chauffeurs VTC, des concierges Airbnb, des femmes de ménage de l'appli Wikasa, des Happy Sitters. Bref, tout un tas de gens ubérisés ont convergé de tous les quartiers de Lyon pour rejoindre le centre-ville.
Les émeutiers ont cassé des boîtiers à clés, brûlé des Vinted Go et des Amazon Lockers. Ils ont déambulé dans le centre. Il leur a fallu à peine quelques affrontements pour faire fuir les troupes du général Retailleau. Ils ont ensuite investi l'hôtel de ville sur lequel ils ont hissé le drapeau noir brodé du slogan « Vivre en livrant ou mourir en mangeant les riches ».
Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a été retenu un temps par les insurgés. Il prétend les avoir toujours défendus, mettant en avant sa politique de pistes cyclables pour leur faciliter le travail.
L'écologiste a finalement été libéré en échange de camarades livreurs qui avaient été faits prisonniers pendant les émeutes.
Les nouveaux tenants du pouvoir lyonnais ont d'ores et déjà instauré un tarif minimum de la course. Ils commencent à organiser la restitution des appartements des anciens canuts à la classe laborieuse.
Et notre envoyé spécial, Claude Casdal, est sur place. Vous m'entendez, Claude ? Claude ?
Oui, je vous entends très bien, Olivier.
Alors, quelle est l'ambiance à Lyon ?
Écoutez, je suis à côté de l'hôtel de ville sur la place des Terreaux qui est pleine à craquer de vélos, de scooters, de trottinettes, de mobilettes et d'overboard, tous reliés par une sorte d'étrange matière gluante.
Ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, les livreurs avaient déposé leur matériel ici pour bloquer la place piétonne. L'idée leur avait été soufflée par le secteur agricole. Alors bon, vous doutez bien que c'est pas aussi efficace que les tracteurs et le fumier, mais les livreurs ont eu la bonne idée de déverser plusieurs centaines de litres de sauce fromagère, ce qui a complètement paralysé le quartier.
Comment réagissent les habitants pour l'instant ?
Alors, beaucoup de touristes prennent des photos de cet étrange amas de vélos, pensant qu'il s'agit là d'une œuvre de street art. D'autres tentent de récupérer une batterie, mais restent coincés dans la sauce. Et puis, beaucoup de gens redécouvrent qu'il est aussi possible d'aller directement chercher un tacos, sans passer par un livreur. Tout à l'heure, j'ai croisé une prof de yoga en télétravail qui m'a dit « C'est fou, j'étais pas sorti depuis le confinement de 2020 ».
Alors, les gens sont plutôt contents, finalement.
Tout à fait, il y a beaucoup de sourires, de politesse et cette impression de vivre un moment collectif historique.
Merci Claude Casdal, on vous retrouve tout à l'heure.
Et dans le même temps, à Paris, quelques 400 jeunes ont investi le théâtre de la Gaîté Lyrique en soutien à leurs camarades lyonnais.
Du côté du pouvoir, le monarque Macron a réuni une cellule de crise à l'Élysée pour préparer une riposte. On parle d'un rétablissement du SNU, voire du service militaire.
Il a également confirmé la commande de rafales, de drones et de baïonnettes pour reprendre la deuxième ville du pays. L'opposition, quant à elle, déplore un pouvoir aux abois, complètement dépassé par la situation.
Cet élément de stupéfaction scandaleuse qui est du côté des autorités, elle est également présente probablement dans les rangs des insurgés. Ils ne s'attendaient pas à prendre la mairie, puis il y avait qui à la mairie? Oui, il y avait un certain nombre de républicains qui, eux, rêvaient l'instauration de la République. Il y avait des canuts, mais est-ce que ces canuts étaient républicains ou non ou autre? Il y avait une forte hétérogénéité, donc qu'est-ce qu'ils voulaient exactement? C'était pas net du tout.
Nous voulions la liberté, monsieur. Nous la voulions pour tous.
Et puis quand l'armée s'approche de Lyon, sous le commandement du prince héritier, le duc d'Orléans, vous rendez les armes.
Putain, on nous avait fait des promesses. Le prince héritier lui-même promet d'apporter tous les soulagements possibles au sort des classes ouvrières de la ville de Lyon.
Sans engagement précis.
Non.
Le pouvoir est rendu et puis de toute façon, ils n'ont pas le choix. Il y a quasiment la moitié des troupes du royaume qui sont en train de converger vers Lyon. Il y a le fils du roi, il y a le maréchal Soult, le ministre de la guerre. Enfin, il y a des troupes qui viennent de tous les côtés. Donc ils savent très bien que de toute façon, ça serait un massacre et un bain de sang. Donc ils rendent tout de suite la ville.
Ils rentrent chez eux, ils se remettent au boulot. Et le tarif n'est pas applicable. Il ne se passe rien, en fait. Sauf que les bourgeois ont peur. Ça a fait très très peur et je pense que ça a fait peur dans la France entière. Donc effectivement, on limoge ce pauvre Bouvier du Molard, préfet qu'on a trouvé évidemment trop proche des ouvriers, trop laxiste. On place Gasparin, qui est réputé être à poigne, et on commence à quadriller la ville, fortifier la ville et faire en sorte que ce qui s'est passé en 31, ce soit plus possible.
Il y a des ceintures de forts qui ont été dressées tout autour de Lyon. Elles visent plutôt l'intérieur que l'extérieur, que les envahisseurs étrangers qui peuvent venir de la Savoie ou autre.
C'est un échec. Enfin, c'est pas une victoire, c'est une défaite. Enfin, ils sont réussi à prouver leur force, leur détermination à s'armer ou à faire des barricades et à lutter. Donc ça, c'est une expérience politique et sociale qu'on ne peut enlever aux gens. Au-delà de cette insurrection, il y a quelque chose qui se passe qui est très important, qui est un organisateur collectif, qui est le journal L'Écho de la Fabrique, qui est rédigé par les chefs d'atelier.
Au moment même de l'insurrection, on a vu naître la presse ouvrière, vraiment quand même une innovation absolument inouïe. Pendant 4 ans, toutes les semaines, il y aura L'Écho de la Fabrique, qui sera en quelque sorte la prise de parole dans le débat public des tisseurs de Lyon. Et ça, c'est quand même un événement prodigieux qui se passe à Lyon et pas ailleurs.
Vous êtes bien sur Arte Radio, en léger direct de Lyon. C'est le radio show et l'écho des canubeurs.
Des fois, quand ils font les débats, des fois, surtout émigration, ils nous prennent comme gens et on est venu saler la France. Non, on n'est pas venu saler la France. Pendant le Covid, c'est nous qui donnions manger aux gens à la maison. Même le médecin qui faisait toute la nuit, c'est nous qui les livrait. Les gens qui étaient malades, c'est nous qui portaient livrer. On a sauvé des vies ici. Nous les livrait.
Et ben, vous avez sur le tour.
Et la réalité, c'est qu'en effet, ils travaillent parfois 60-70 heures pour toucher le SMIC. Mais ils trouvent un travail. Ils rentrent dans la dignité.
Uber, dans tous les pays où on est présent, respecte le droit.
60-70 heures pour toucher le SMIC.
On a eu à faire la livraison chez des ministres.
Il faut vraiment que l'État nous aide, quoi.
On crie, mais les gens n'attendent pas.
C'est pas juste Uber dont on parle. Plus que ça, c'est une idée. C'est l'idée simple que, avec des technologies, on peut mettre aujourd'hui en relation des gens pour qu'ils s'offrent des services et des biens, moyennant certaines finances.
Capitaine Flemme, tu veux pas bouger ton cul d'ici? Quand t'es sur ta série, Capitaine Flemme, t'es chez toi, t'es un peu triste, étudiant ou graphiste, tendance esclavagiste.
Il faut que ce soit possible, c'est la liberté de pouvoir entreprendre, pouvoir faire des choses.
On s'en bat l'écho. Dominique Bleu.
Bonjour, aujourd'hui dans le débat, l'insurrection des livreurs qui a secoué la ville de Lyon, on y revient avec Jérôme Piment, chef du syndicat des livreurs en roue libre. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour, je suis le porte-parole du SDRL, pas le chef, oui. En fait on n'a pas de chef, c'est autogéré.
Et on a bien compris. Face à vous, madame Aurore Mouton, vous êtes ministre du Nouvel Ordre Social et autrice du livre « Uber et moi, une histoire d'amour depuis la crèche ». Bonjour madame.
Bonjour Dominique.
Bienvenue dans « On s'en bat l'écho ». Jérôme Piment, après cette révolte, qu'est-ce que les livreurs ont obtenu ?
En réalité, rien. L'État s'est moqué d'eux, il les a réprimés, leur a fait des promesses, mais rien n'a été mis en place pour obliger les plateformes à se mettre en conformité avec les jurisprudences des prud'hommes et de la Cour de cassation, qui, je le rappelle, ont qualifié les Uber en salariés.
Aurore Mouton ?
Effectivement, cette révolte n'a servi à rien. Par contre, elle a coûté très cher aux contribuables et à l'économie.
Elle a surtout coûté cher aux livreurs.
Oui, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Et puis déjà, je pense qu'il faut faire attention à ne pas essentialiser les livreurs, car les livreurs ne sont pas tous identiques, ils ne sont pas tous dans les mêmes conditions, ils n'ont pas tous les mêmes objectifs, les mêmes chiffres d'affaires, les mêmes fichiers clients.
Oui, enfin, quels que soient les livreurs, les gars, ils bossent 70 heures par semaine pour difficilement atteindre 800 euros par mois. Ils n'ont aucune protection sociale. Certains dorment à la rue, sous des tentes.
Monsieur Piment, ne faites pas de mauvaise foi. N'importe quel auto-entrepreneur est libre de souscrire à une assurance privée, une retraite complémentaire, donc il peut se protéger.
Mais non, vous le savez très bien, ils n'ont pas de protection.
Mais ce que vous dites pas, monsieur Piment, là, c'est que les livreurs que vous défendez n'ont pas de protection, car ce sont des clandestins qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire. Voilà.
Je ne vois pas le rapport.
Qu'est-ce que vous allez dire, hein ? Quand un de vos radicalisés livrera une bombe dans une famille ?
Oula, vous dites n'importe quoi, Aurore Mouton, c'est lamentable. Et raciste, en plus.
Non, mais attendez, c'est pas moi qui fais une carrière de militant syndical et politique sur le dos des migrants, hein.
Non, mais attendez, c'est raciste, honteux, là. Non, mais vous pouvez pas dire des choses pareilles, madame. Bon,
d'espèce de petit wokiste de merde.
Ah bah, woke, ouais, ça, c'est toujours l'excuse,
pardon.
C'est sûr.
S'il vous plaît, là, on s'éloigne du débat. S'il vous plaît, on revient sur la question de l'Uber Economy. Peut-être une mesure simple pour qu'on ne se retrouve pas de nouveau dans une situation où le pays est bloqué.
Moi, je le répète encore une fois, c'est simple. Juste le droit du travail, rien que le droit du travail, toujours le droit du travail.
Arrêtez avec ce charabia syndical, monsieur Piment. Je vais vous prendre l'exemple de mon neveu. Quand il était étudiant à HEC, il a été livreur quelques jours pour financer ses études. Il a découvert un peu le business et aujourd'hui, il a monté une start-up qui vient de lever plusieurs millions d'euros. Il s'agit d'une appli qui s'appelle What the Smell, une sorte de Shazam des odeurs. Vous sentez quelque chose dans la rue, vous sortez votre smartphone et l'appli vous dit de quoi il s'agit. Et d'ailleurs, je l'ai fait avec vous, monsieur Pinement. Hein ? Vous, c'est Axe.
Non, mais attendez, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute,
non,
là.
C'est pas Axe.
Oui, pardon, mais non. On s'éloigne un peu, là, je crois, du débat, Aurore.
Non, mais si, justement, nous sommes au 21e siècle. Un jour, on est livreur. Le lendemain, on monte une start-up et on devient riche. Tout est possible.
Tout est possible pour ceux qui sont du bon côté de la barrière, madame Mouton. Mais pour les autres, ceux qui n'ont pas de tente planquée au ministère, mais plutôt une tente plantée à Guillotière, il faut des protections.
Attention, monsieur Piment.
Votre système, c'est le travail à la tâche, c'est le retour au 19e
bon,
siècle.
Arrêtez de comparer l'incomparable. Hein.
Il ne faudra pas vous plaindre si vous prenez une deuxième insurrection dans la gueule.
Ce sont des menaces, ça, monsieur Piment.
Et on la soutiendra, cette insurrection, avec le SDRL.
Ben voilà qui va motiver ma proposition de loi concernant l'interdiction des syndicats et des associations.
Les lois qui sont mises en place après la Révolution française prohibent les associations considérées comme une possibilité de reconstitution des anciennes corporations. Donc c'est interdit. On n'a pas le droit de s'associer au-delà de 9 ou 10 personnes. Sauf qu'on se rend compte que ce système qui individualise totalement la transaction sur le marché du travail est quelque chose qui joue énormément en défaveur des plus faibles. Donc il y a un ensemble de réflexions qui se développent dans le milieu de la canuserie pour trouver un moyen, malgré l'interdiction du code, de s'associer et se solidariser. Pour cela, ils font des loges de moins de 10 personnes, mais qui sont des loges interconnectées entre elles.
Ils se mettent ensemble pour discuter, pour faire aussi une caisse de solidarité qui vaut, par exemple, en cas de manque de travail, de chôme, donc, c'est une première forme d'organisation. et qu'on appelle le mutualisme.
C'est-à-dire des caisses d'entraide, ce qui va devenir notre mutualité, nos sécurités sociales. On crée le système par répartition. Et c'est du rêve, ça. C'est ce qu'on dit, plus personne d'entre nous ne sera dans la misère quand le mari meurt brusquement, quand il faut payer un enterrement. On se cotise. Et quand ça va bien, on met un peu plus au pot et tout ça. C'est simple. Ça nous paraît simple maintenant, mais ça n'allait pas de soi. Un encadrement des loyers, dingue, hein, on en parle déjà à l'époque.
Le mutualisme, c'est une solidarité qui se met en place par le bas, en quelque sorte. C'est pas du tout chapeauté par une autorité supérieure, qui pourrait être l'État ou autre. C'est autogéré. C'est quelque chose qui est très très moderne. En février 1834, le mutualisme renforcé par ces éléments républicains ou autres va être en mesure de décider presque une grève générale à Lyon en février. Ça ne va pas durer longtemps. Mais enfin, quand même, dans l'historiographie moderne, on considère que la grève générale naît en France à la fin du XIXe siècle, pas en 1834.
Il faut l'interdit général des métiers. La damnation, faut cesser le travail en masse.
Arte Radio Breaking News, on apprend qu'il y a de nouveau du grabuge à Lyon.
Oui, 3 ans après la première insurrection qui avait marqué le pays, les livreurs à vélo ultra précaires ont de nouveau monté des barricades à Lyon cet après-midi.
Tout est parti d'une manifestation de soutien aux grévistes qui passaient en procès. Et à la sortie du tribunal, l'ambiance était électrique entre les canubers et les forces de l'ordre, quand un policier a enlevé son casque pour rejoindre les insurgés et a commencé à tirer sur les CRS avec son arme de service. L'information a vite fait le tour de la ville et dans tous les quartiers, le peuple s'est levé.
Oui, et selon les premiers témoignages, on est sur une révolte beaucoup plus déterminée et violente que la première. La ville flambe et on nous signale que l'intégralité des antennes 4G de la métropole ont été détruites et les câbles de la fibre sabotés. Lyon est donc coupé d'Internet.
Sur place, comme il y a 3 ans, on retrouve notre correspondante Claude Casdal en direct de ce qui semble être la deuxième insurrection des canubers. Vous m'entendez, Claude ? Claude ?
Oui, je vous entends, Olivier. Je ne parle pas très fort puisque je me suis réfugié dans une traboule entre deux rues pour échapper aux combats qui font rage ici. J'ai déjà pris un tir de LBD dans la cheville.
Est-ce que vous pouvez quand même nous dire quelque chose sur la situation, Claude ?
Écoutez, ici, il se passe des choses incroyables. Contrairement à la première insurrection qui était majoritairement issue des travailleurs ubérisés, là, c'est toute la population qui est dans la rue. Il y a des barricades dans les quartiers populaires, des gérants des petits casinos se sont organisés avec des paysans des Monts du Lyonnais dans le Vieux-Lyon. À Bellecour, ce sont des organisations plus politiques comme les Soulèvements de la Terre, les collectifs de migrants, des Gilets jaunes perchés. J'ai même vu un député écolo de Lyon.
Ah oui, il y a des personnalités politiques qui ont rallié les émeutes.
Et oui, et tout à l'heure, j'ai vu Karl Marx et Joseph Proudhon qui discutaient avec Louis Blanc. Et puis les femmes aussi prennent part à la révolte. Jenny Boyer, évidemment, est là à diffuser le journal des femmes. Mais j'ai aussi vu Flora Tristan.
Mais est-ce que tous ces gens se retrouvent derrière une revendication commune ou c'est malgré tout assez hétérogène comme mouvement, Claude ?
Alors tout le monde soutient les livreurs évidemment, mais on réclame aussi le droit de s'associer, la régularisation de tous les sans-papiers, la retraite à 60 ans, la presse libre. On veut mettre fin à l'Empire Bolloré, d'ailleurs une fake news annonçant sa mort circule dans les cortèges. Les murs de la ville sont recouverts d'affiches contre l'esclavage et pour la fin des colonies. Bref, on assiste là à une véritable convergence des luttes dans le temps. Mais je crois que ce qui rassemble tout le monde, Olivier, c'est la volonté de faire tomber le roi Louis-Philippe Macron. Ah. Voilà, je vous laisse parce que j'entends les canons de la garde nationale qui se rapprochent.
En 1934, on est sur une révolte politique, on est sur une révolte républicaine. Parce que les discours républicains arrivent dans l'écho de la fameuse. La République semble être le nirvana de la liberté et de l'émancipation.
Mais les revendications sont toujours sociales. Les prud'hommes, les tarifs, le mutualisme, tout ça. Et maintenant, des revendications politiques avec la montée du républicanisme. Mais ce qui change, c'est que les troupes, elles, là, sont préparées. Et donc, la deuxième insurrection est plus violente et finit très mal. Il y a toute une réflexion sur la guerre des rues, notamment par un type comme Bugeaud, qui a été développée et qui fait que en 1834, ils commettront absolument pas les mêmes erreurs.
Et c'est aussi Adolphe Thiers qui sera plus tard le boucher de la Commune de Paris, qui est déjà, en 1834, ministre de l'Intérieur.
Oui. Et puis en plus, oui, il est là tout le temps, lui. Tout le 19e siècle, c'est lui.
Mais on se connaît.
J'en ferai le rapport, messieurs les canuts. Des anarchistes, des rebelles.
Mes amis, ils nous jettent en prison. Il faut prendre les armes et mourir plutôt que de voir ces tyrans triompher sur le combat.
Vive la République, citoyens ! Vive la République !
Donc en 1834, ça dure quelques jours.
Les ponts sont bloqués.
Les troupes d'insurgés seront isolées les unes des autres.
L'armée est impitoyable.
Il n'y aura pas de jonction.
Avec des colonnes qui détruisent tout dans leur passage, qui pillent, qui volent.
On n'est pas du tout dans la liesse d'une révolte ouvrière où on pense qu'on va gagner, etc.
Les combats en 1834 sont violents. Il fallait vraiment se venger de ce qui s'était passé en 1831.
À Vaise, 14 habitants d'une maison qui était à côté d'une barricade d'où serait parti un coup de feu sont assassinés.
Il y a tout un immeuble où ils sont passés à la baïonnette.
La dernière poche d'insurrection à être réduite, c'est la Croix-Rousse qui capitule, parce que de toute façon, sinon elle aurait été rasée.
Cette insurrection lyonnaise fait quand même plusieurs centaines de morts.
Ça meurtrit la ville, ça a donné naissance à ce fameux poème magnifique de Marceline Desportes-Valmore. Elle est là, cette pauvre Marceline, à l'hôtel en bas, au terreau, quoi, et sa castagne dure. On est dans la haine, on tue, c'est la guerre civile.
Quand le sang inondait cette ville éperdue, quand la bombe et le plomb balayant chaque rue excitaient les sanglots des tocsins effrayés, quand le rouge incendie aux longs bras déployés étreignait dans ses nœuds les enfants et les pères, refoulés sous leurs toits par les feux militaires. J'étais là. J'étais là qu'en brisant les caveaux ébranlés, pressant d'un pied cruel les combles écroulés, la mort disciplinée et savante au carnage étouffait lâchement le vieillard et le jeune âge. Et la mère en douleur près d'un vierge berceau, dont les flancs, refermés, se changeaient en tombeaux. J'étais là. J'étais là.
J'écoutais
mourir la ville en flammes. J'assistais vive et morte au départ de ces âmes que le plomb déchirait et séparait des corps, fêtes affreuses où tintaient de funèbres accords.
Les clochers haletant, les tambours et les balles, les derniers cris du sang répandus sur les dalles. J'étais là.
J'étais là.
Savez-vous que c'est grand, tout un peuple qui crie? Savez-vous que c'est triste, une ville meurtrie, appelant de ses sœurs la lointaine pitié, écousant au linceul sa livide moitié, écrasée au galop de la guerre civile? Savez-vous que c'est froid le linceul d'une ville, et qu'en nous revoyant debout sur quelques seuils, nous n'avions plus d'accent pour lamenter nos deuils.
Lorsqu'après de longs bruits, un lugubre silence, offrant de Pompéi la morne ressemblance, immobilisait l'âme au bond irrésolu, quand Lyon semblait morte et ne respirait plus.
Les événements de ces dernières semaines ont profondément troublé la nation. Ils ont mêlé des revendications légitimes et un enchaînement de violences inadmissibles.
Les forces de l'ordre reprennent le contrôle de la gaieté lyrique. À l'extérieur, des dizaines de manifestants venus s'opposer à l'opération de police. Affrontements, gaz lacrymogène.
Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence.
46 personnes ont été interpellées.
Et donc il y a un immense procès qui se met en place, qui s'appelle le procès monstre. Un certain nombre des insurgés de Paris et de Lyon sont jugés.
Vous êtes mis en accusation comme ayant fait partie d'une coalition d'ouvriers pour l'augmentation des salaires, dont le but soit de détruire, soit d'exciter à la guerre civile en portant les citoyens à s'armer les uns contre les autres.
Les insurgés ouvriers sont relativement épargnés. Mais les républicains, eux, sont systématiquement condamnés.
Nous sommes à un moment historique. Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies.
Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont gagné ne serait-ce que l'estime de soi. Et ça, c'est extrêmement important.
C'est la première révolte ouvrière organisée en Europe. Avant, on brûlait tout sur la place des Terreaux et on se mettait en colère et puis on repartait aussi miséreux qu'on était venu. Là, non. Les chefs d'atelier organisent la protection des moyens de production. C'est la première fois.
Il y a tout un processus sur tout le 19e siècle où l'on passe du mutualisme à des associations déclarées avec statut en préfecture, etc. Et ça débouche après sur le syndicalisme.
C'est la première révolte qui est regardée par Marx, qui vient à Lyon, qui rencontre les gens.
C'est le début d'un certain nombre de revendications sociales en termes de redistribution, en termes de travaux publics. C'est en quelque sorte l'idée qui se développera après, au moment du printemps 48, l'idée de la République démocratique et sociale.
Toutes les belles et grandes utopies naissent de cette période-là. On invente tout.
Le mouvement des femmes, un féminisme prolétaire qui essaye de relier lutte des classes et émancipation des femmes. Mouvement qui parfois se rencontre avec le mouvement des Canuts.
Il y a vraiment une situation qui, pour cela, est assez spécifique à Lyon.
Un an après la deuxième insurrection des Canuts, 57 insurgés lyonnais sont condamnés à la déportation et d'autres à des années de prison.
Un an après l'insurrection des Canubers, 57 insurgés livreurs sont expulsés du territoire vers des pays dans lesquels leur existence est en danger.
Les Canuts continueront d'être des précurseurs de l'économie solidaire et des circuits courts en inventant les coopératives d'achat.
Les Canubers, eux, mettront en place des cantines de quartier autogérées où les gens se retrouvent le midi et réapprennent à se passer des esclaves.
Les Canuts, avec l'association des Voras, seront en première ligne lors de la révolution de 1848 qui fait chuter la monarchie.
Les Canubers, rejoints par tous les agités, participeront à la révolution de 2026 qui a fait sauter la Macronie.
S'ensuit des progrès incroyables comme l'abolition de l'esclavage.
S'ensuit des projets incroyables comme l'abolition du travail.
Les Canuts remettront ça en proclamant la Commune de Lyon en soutien à leurs camarades parisiens en 1870.
Les Canubers remettront ça en proclamant la Commune de Lyon en soutien à la révolution antifasciste de 2027.
Il y aura ensuite des nouveaux droits syndicaux, la citoyenneté des femmes et le Conseil national de la résistance.
Il y aura ensuite la fin du capitalisme, l'abolition du patriarcat et l'Assemblée générale des peuples.
Et ça, ne sera que le début.
Pour un burger, un tandoori, un pokéball ou des sushis.
Pour un burger, un tandoori, un pokéball ou des sushis.
Vous nous sifflez du haut de votre appli et nous, pauvres livreurs, pédalons sous la pluie. C'est nous les livreurs, 4 euros de l'heure.
C'était le radio show en légie directe des révoltes des Canubers, une émission réalisée avec Abad, avec Alzardo auprès des livreurs, Gribiche de Grenoble, Renaud Biston au chant. Avec aussi la complicité de la Compagnie de la Grenade, de Flobé, de Charlie au mix du podcast et bien sûr de Loupiote et Arte Radio à la production. Retour du radio show au mois de juin.
Mais bientôt on mettra la zone chez Uber et chez Amazon.
Et bien sûr, vive les Canubers.
On livrera la commande fatale, on mettra du cyanure au milieu des casse-dalles. C'est nous les livreurs, on n'aura plus peur. C'est nous les livreurs, on n'aura plus peur.
Arte. Radio. Quoi ?
C'est nous les Canuts, rendez-nous les apports.
Comme.
Bon, je vais pas faire durer le suspense, le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là à des revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Vous écoutez l'actualité des luttes
comme tous les jours du lundi au vendredi
de 12h30 à 13h30
sur FPP
fréquence Paris Pluriel 106.3.
Et l'actualité des luttes, c'est aussi en rediffusion du lundi au vendredi de 6h30 à 7h30.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il ne faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias, là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible. Et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, messieurs.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. Pas en restant en autarcie là, sur nos petits, avec nos petites idées dans un petit coin, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedeslutte.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.